Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans Take Off, un podcast où je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui sont à l'origine des plus belles startups françaises. Merci à eux qui me reçoivent à leur domicile le temps d'un petit déjeuner. Et merci à vous d'être là une nouvelle fois pour m'accompagner durant cette troisième saison. Doucement, les petites scènes du quotidien reprennent leur place. Un artisan croise un jeune couple conduisant leur fils à l'école dans cette longue rue du 9e arrondissement parisien, alors que la lumière du premier été post-Covid inonde le bitume et la pierre de taille. Le cocon où s'est réfugié Bénédicte de Raphaëlis, 60 ans, pendant le confinement, y respire encore la langueur de cette période doublement inédite pour la fondatrice de Clustry. Après avoir vendu son entreprise à Cornerstone, le géant américain du logiciel RH en janvier dernier, l'entrepreneuse passe son confinement à intégrer à distance ses anciennes équipes. Mais après ce premier succès, qui lui a d'abord permis de prendre soin de ses proches, elle commence à réfléchir à sa vie d'après. Je suis Guillaume Brégeras, journaliste aux Échos, et vous écoutez Take Off. Je vous souhaite de passer un très très bon moment en compagnie de Bénédicte, l'un des visages de la French Tech. Eh bien, Bénédicte, bonjour.
Bonjour, Guillaume.
Merci de me recevoir chez toi. Donc, pour ceux qui écouteront ce podcast dans quelques mois, voire quelques années, on est juste en post-confinement après le Covid. Et c'est une période doublement particulière pour toi, puisque juste avant, tu as vendu ton entreprise, on va y venir. Mais avant, je voulais savoir, comme à chaque invité qui me reçoit, est-ce que tu as des routines le matin et est-ce qu'elles ont changé avec la période qu'on vient de passer ?
Justement, en fait, on n'a pas vraiment de routine et j'ai pas vraiment de routine parce que, comme tu l'as dit, on a vécu un M&A, un confinement, on a trois enfants une semaine sur deux, donc le matin on s'organise un peu comme on peut en fait. Et bah oui, en effet, quand avant j'avais Clustry avec toute l'équipe, avant qu'on soit racheté par Cornerstone, c'était se lever tôt, organiser le travail, distribuer pour tout le monde et regarder s'il y avait des sujets de la veille qu'il fallait adresser dès le matin pour pas bloquer les équipes, etc. Aujourd'hui, non, c'est en effet très différent. Donc, si tu veux, des fois, c'est mon homme qui se réveille très tôt, qui bookine le journal et qui me réveille en disant « T'as vu cet article ?» alors que, en fait, j'ai même pas ouvert l'œil, donc c'est un peu brutal. Il y a des moments où c'est les petits qui nous réveillent. Enfin, non, c'est très différent. Mais en tout cas, non, tous les matins, ce qui a pas changé, c'est de prendre ce que je suis en train de boire là, qui plaît pas à grand monde, mais c'est de l'eau chaude avec de la fleur d'oranger. J'ai une espèce d'addiction à ça, et ça, donc j'en bois des litres la journée. Mais non, pas de routine particulière, du coup.
Et là, période qu'on vient de traverser, donc confinement à la maison, j'imagine aussi,
oui.
Pour toi. Comment tu l'as vécu ? Est-ce que déjà t'es toujours tu diriges toujours l'activité Clustry au sein de Cornerstone ?
Exactement.
Mais comment tu t'es organisé durant cette période ?
Alors déjà ça a été très particulier d'être confiné après avoir vécu un M&A, parce que normalement quand tu finis ton M&A, c'est la période où tu travailles sur l'intégration, tu vas faire une grosse fête avec l'acquéreur aux États-Unis, tu fais en sorte que les équipes se mélangent, etc. Nous on a vendu fin janvier, le temps de mettre un peu les choses en place, etc. Et le confinement est arrivé. Et donc, ça a été très particulier de faire en sorte que l'équipe Clustry ne pâtisse pas du fait de ne pas pouvoir être mélangée avec l'équipe Cornerstone, de ne pas aller là-bas, etc. Donc, on a passé énormément de temps, en fait, à travailler sur la dimension humaine. Faire des calls avec les gens, papoter avec eux, faire en sorte que chacun aussi découvre les managers qu'ils ont, les équipes avec lesquelles ils travaillent. Donc ça a été un peu particulier à gérer dans cette période-là. Et sinon, bah, je pense qu'on s'est organisé comme tout le monde, c'est-à-dire que bah, tu passes ta journée en call avec la vidéo. De temps en temps, justement, tu la mets pas parce que t'en as un peu marre de toujours être sur ce mode-là. Et nous, après, on a fait aussi beaucoup de téléphones sans que ce soit dans un mode un peu formel de call, WebEx, etc., avec les gens pour prendre la température et faire en sorte que ce soit fluide. Il y a eu aussi toute la partie client à gérer et bah, leur annoncer comment les choses allaient évoluer, comment Closer allait être intégré dans Cornerstone, etc. C'est des choses que tu préfères aussi faire en physique parce que tu as un tweet personné, tu peux présenter les gens. Donc, ça a été particulier, mais bon, comme ça l'a été pour tout le monde, au final, ça s'est assez bien passé.
D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler juste de Closer quand même un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas bien la solution? C'est une solution RH, un logiciel RH.
Oui.
Voilà, dis-nous un petit peu plus en détail ce que c'est aujourd'hui et en quoi l'intégration avec Cornerstone fait sens.
Alors, donc Closer, c'est une startup qui était VC-backed, que j'ai fondée en 2014, dont l'objectif, c'était d'utiliser l'intelligence artificielle, donc du machine learning et des algorithmes sans biais, pour faire des compétences un langage universel, une espèce de monnaie d'échange en fait dans le marché du travail qui est aujourd'hui très basée sur les intitulés de poste, sur les diplômes, etc. Et donc résoudre ce langage chaotique des compétences pour à la fin faire des recommandations de poste, de parcours, de formation, etc. aux collaborateurs. Et en fait, alors l'intégration avec Cornerstone a du sens à plusieurs égards. D'abord, il y a peut-être, mais je ne sais pas si c'était ça ta question, pourquoi on a décidé de vendre la société.
Après, ça va me
vas-y. Et donc pourquoi ça a du sens fonctionnellement avec Cornerstone? En fait, si tu veux, ils ont un positionnement formation, recrutement, performance et carrière. Et nous, on avait le réacteur, en fait, qui permettait de relier tous ces cas d'usage parce qu'en fait, tu as des compétences dans la formation, dans les carrières, dans le recrutement, peut-être demain dans la paye. Et donc, en fait, si tu arrives à résoudre ce langage-là, tu vas fluidifier l'ensemble de ces processus-là, créer du lien entre ces processus. Et eux, ils voulaient depuis longtemps, et d'ailleurs, ils avaient un projet depuis 2 ans qu'ils avaient appelé The Impossible Project. Et au final, ils ont acheté Closer pour le résoudre. Ils avaient un projet depuis longtemps qui était de relier les formations, les métiers et les compétences. Et il leur manquait en fait le langage pour faire tout ça. Et donc, ils ont acheté Closer pour faire ça. Et aujourd'hui, ça va être au cœur de leur produit. Donc, l'IA va être au cœur de la solution sur un profil de compétences universelles pour le collaborateur et des recommandations entre l'ensemble de leurs modules. Et ça, c'est Closer qui va le faire.
La typologie de tes clients, c'est plutôt des grands comptes
Oui, c'est des grands comptes, des entreprises de plus de 2-3 000 salariés. Mmh. Et on a principalement signé des très grands comptes. Donc, c'est du Sanofi, du Carrefour, du SNCF, Crédit Agricole, Veolia, CMA, CGM. C'est ce genre d'entreprise-là. C'est aussi la typologie de clients de Cornerstone, même si eux, ils descendent aussi sur plus du SMBs dans leur positionnement également.
Et alors, comment ces grands comptes voient? Parce que c'est vrai qu'on dit toujours que les grands comptes ont du mal à travailler avec les startups. En tout cas, il y a beaucoup d'hésitations, ils prennent beaucoup de pincettes. Comment ils ont vu cette acquisition?
Alors déjà, on avait des clients en commun avec Cornerstone, donc pour eux, ils ont ouvert le champagne quand ils ont eu la news parce qu'ils se sont dit, comme Sanofi, super, on va avoir des produits beaucoup plus intégrés, ça va permettre d'avoir beaucoup plus de valeur dans Cornerstone et un peu de relier tout ça. Les autres l'ont aussi accueilli très positivement parce qu'en fait, même si les grands comptes, dans ce sur quoi ils communiquent, sont extrêmement proches des milieux des startups, la réalité est quand même un petit peu différente. Et du coup, quand tu es acheté par un grand groupe qui pèse, quand nous, on a vendu un peu plus de 3,5 milliards en bourse. Mmh. Bon, en fait, ils se disent, bon, la solution que j'ai achetée, la proposition de valeur que j'ai est pérenne. Ce qui n'est pas forcément le cas quand tu travailles avec des startups, tu ne sais jamais quelle va être l'issue. Donc, ça les a aussi énormément rassurés. Et pour beaucoup, ils se sont dit, bon, on a fait le bon choix parce que ben, c'est un acteur qui, du coup, est reconnu et un acteur comme Cornerstone les a achetés. Donc, ça les a aussi confortés dans le choix qu'ils ont fait pour certains il y a quelques années.
Et en France, on ne connaît pas forcément bien Cornerstone. En tout cas, dans le milieu startup, on doit connaître un petit peu parce que c'est une boîte cotée au Nasdaq. En revanche, c'est quand même un acteur de poids, vraiment. Donc, toi, à quel moment tu les as rencontrés? À quel moment tu t'es dit, potentiellement, ça peut être quelqu'un d'acquéreur pour Closer?
Alors, écoute, en fait, ça s'est passé un peu différemment. Déjà, moi, je les avais rencontrés il y a 3 ans. J'avais rencontré Vincent Béliveau qui dirige l'Europe parce que, bah, tu sais, la HR Tech, c'est un tout petit milieu, donc tu rencontres tout le monde pour voir s'il y a des synergies, etc. Et on avait discuté, et puis, mais pas du tout d'acquisition, évidemment, simplement de positionnement, voir s'il y avait des choses à faire d'un point de vue produit en commun, et ça n'avait rien donné. Mais en fait, nous, l'histoire s'est passée un peu différemment. Si tu veux, il y a à peu près un an, enfin non, maintenant peut-être à peu près un an et demi, je dirais, on s'est rendu compte que le marché était bloqué pour deux raisons. On avait un super produit, une super techno, une proposition de valeur qui était très appréciée. Très vite, on a signé, si tu veux, une quinzaine de grands comptes avec un niveau d'ARR très élevé. Mais en fait, c'était les acteurs les plus innovants. Et donc, aller chercher le reste du marché, ça a été compliqué. C'est pour ça qu'on a une croissance commerciale réduite, parce qu'en fait, bon, bah, au début, tu dis « Waouh, j'ai signé 15 acteurs en très peu de temps avec chacun 200 000 euros d'ARR. » Tu dis « Il y a un super marché. » Et en fait, tu te rends compte que t'as réussi à avoir les acteurs les plus innovants et que pour cross the chasm, quand on dit, ça va être plus compliqué. Donc, on s'est dit « Ok, comment on fait pour aller chercher autre chose ?» Et on s'est rendu compte qu'il y avait deux barrières en fait sur le marché. C'est pas qu'il n'y avait pas de marché, c'est qu'il était un peu bloqué pour ces deux raisons-là. La première, c'est qu'il fallait qu'on soit plus intégré au bastodonte, comme Cornerstone, qui avait les processus RH. Et nous, si on n'était pas plus intégré, on restait un acteur qui délivrait énormément de valeur, mais en dehors des processus. Et la deuxième chose, c'est que les compétences étant un langage universel et tout ce qu'on faisait sur l'IA et la mobilité étant le cas, il nous fallait adresser beaucoup plus de cas d'usage pour que notre proposition de valeur ait beaucoup plus de sens pour les clients. Et donc, on a commencé à se dire, OK, on va travailler sur des partenariats pour être plus intégré au processus et couvrir plus de cas d'usage. Parce que, étant donné que c'était couvert par des mastodontes, on n'avait ni l'assise financière, ni la légitimité, ni l'expertise pour aller développer ça. Et en discutant partenariat, justement, j'avais quand même toujours en tête que, et t'as toujours en tête les opérations de haut de bilan quand t'es un entrepreneur, de dire ok, soit on fait des partenariats, mais sinon c'est quoi les autres possibilités. Et tu pouvais avoir faire de Clustry une boîte sympa, tu vois, pérenne, mais qui est pas l'ambition que tu as quand t'as des VC à bord. Soit c'était faire un exit. Et je savais que l'exit serait envisageable dans le sens où on avait une super techno et que ça ferait pencher la balance des acteurs dans le buy versus le build. Je savais que la valo du dernier tour nous permettrait d'aller voir des acteurs très variés et des talents soft à 80 millions d'euros de chiffre d'affaires et des acteurs beaucoup plus gros, tout en ayant une zone où et les VC et moi, on pouvait gagner de l'argent. Donc, on a abordé les partenariats, mais en fait, quand on est allé vers cette approche partenariat, on s'est rendu compte que la plupart des acteurs accordaient énormément de valeur à ce qu'on faisait, mais qu'ils étaient en train de se poser la question de le développer. Est-ce que je développe en interne? Est-ce que j'achète une boîte pour le faire? Et donc, ça a été assez pragmatique.
C'est à quel moment ça
Là, les partenariats, on a commencé début d'année 2019. D'accord. Et donc, on a commencé à rencontrer des acteurs, je dirais, jusqu'en mai, quelque chose comme ça. Et donc, si tu veux, tu te dis, OK, dans deux ans, tous les acteurs vont avoir ce qu'on a, plus ou moins bien fait, mais en tout cas, ils l'auront. Donc, ça va être, un, plus difficile de signer des comptes sur le marché face à eux. Déjà qu'il y avait cette dimension innovateur et ensuite la majorité qui était difficile à aller chercher. Et deux, ça veut dire aussi un univers d'acteurs potentiels qui serait réduit à peau de chagrin. Donc, on s'est dit, en fait, c'est le bon moment pour le faire. Et c'est à ce moment-là où tu décides de dire, OK, partenariat, ça n'a pas de sens. Faire une boîte rentable, ça n'a pas de sens parce qu'en fait, voilà, le marché va aller vers ça et les gros acteurs auront tout ça intégré à leur processus. Et donc, à ce moment-là, bon, bah, tu prends la décision de dire, OK, on y va. Et en plus, on avait reçu une offre d'intérêt d'un acteur et on a rencontré plein d'acteurs et on a rencontré Cornerstone en octobre. Et la vente s'est faite en janvier.
Ouais. Ah, ça s'est fait très rapidement.
Sans
brûler les étapes, parce que c'est important de rentrer dans le détail un peu de cette opération. Donc, c'est un choix vraiment stratégique de se dire, à un moment donné, il faut qu'on se vende pour être plus fort. Combien d'acteurs étaient réellement intéressés et est-ce qu'il y avait des acteurs français à ce moment-là?
Il y avait des acteurs français. On a eu plus de 5 marques d'intérêt très fortes et on a eu plus de 3 propositions. Donc, ça a été un vrai choix aussi pour nous de nous orienter vers Cornerstone et non pas vers d'autres acteurs.
Qu'est-ce qui guide le choix? Il y a le prix, j'imagine, mais il y a pas que.
Il y a plein de dimensions. Il y a en effet la valo, mais il y a plein d'autres choses par rapport à la valo. C'est la carrière que toi, tu vas avoir, que tes équipes vont avoir. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ton produit? Est-ce que la culture de la boîte est proche de la tienne? Il y a aussi, au-delà de la valo, si on parle de conditions financières, est-ce qu'il y a un earn-out? Est-ce qu'il n'y a pas d'earn-out? Est-ce que c'est du cash? Est-ce que c'est des titres? Parce que bon, évidemment, il faut faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes, donc tes équipes, tes VC, toi-même, que ce soit bénéfique pour tout le monde. Donc, t'as plein de dimensions. Cornerstone, en fait, ça a été une évidence au-delà du fait que les conditions ont été top. On n'a pas d'earn-out, ça a été du full cash.
Pas d'earn-out, pour ceux qui ne connaissent pas, l'earn-out, c'est de l'argent conditionné à...
Pas de complément de prix. Voilà. C'est-à-dire que tout est... tout est payé au moment de la vente, tout en cash, donc ce qui est mieux pour tout le monde. Les VC peuvent rendre l'argent à leurs limited partners tout de suite. Et puis, au-delà de ces conditions-là qui ont été top par rapport aussi à la valo du dernier tour qu'on avait, ça a permis à nos VC de gagner de l'argent, à moi-même évidemment aussi. Mais surtout, ça a été un acteur où on s'est dit, en fait, ils ont l'ambition, parce que c'est pas opportuniste. Eux, ils travaillaient sur le sujet depuis 2 ans déjà, ce qu'ils avaient appelé The Impossible Project. C'était l'opportunité pour tout ce pourquoi on s'est toujours battu, ce à quoi on a consacré notre énergie, etc., de continuer à vivre, mais de vivre beaucoup mieux, plus grand, en étant intégré à tous les processus, en ayant tout de suite la formation, la performance, le recrutement, avec les compétences au cœur. Et donc, pour nos équipes et pour moi qui me bats sur ce projet depuis 6 ans, c'est top de te dire que ce que tu as fait, ce en quoi tu as cru, en fait, a du sens, a de la valeur, et que demain, c'est 3600 clients qui y ont accès, qui vont avoir les compétences détectées dans les profils, les algos de recommandation, etc., etc.
Les entrepreneurs me parlent souvent de l'adrénaline du début, du tout début, de quand vous démarrez et que vous commencez le projet. L'adrénaline de la vente, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est plus forte? Comment ça se passe?
C'est très différent. En effet, c'est très différent. L'adrénaline du début, c'est de la ferveur, tu es porté par ce en quoi tu crois, tu as une énergie de dingue, c'est très nouveau aussi. L'adrénaline de la fin, elle est beaucoup, tu ressens beaucoup de pression en fait, plus que de l'adrénaline en fait. Déjà parce que c'est un processus dans lequel, en tant qu'entrepreneur, tu es très seul. Tu es très seul parce que personne n'a autant d'enjeux que toi au fait de réussir ou pas à vendre ta boîte. Et d'ailleurs, l'outcome est très différent si tu réussis à la vendre ou si tu réussis pas. Tes VC, ils ont un portfolio avec plein d'autres boîtes, le risque est diversifié, ils ont déjà un track record. Tes équipes, c'est des gens talentueux qui retrouveront des jobs canons très facilement. Toi, si tu réussis à vendre ta boîte ou si tu... pour certains, potentiellement, plante ta boîte, ça n'a rien à voir, et d'un point de vue financier, et d'un point de vue track record. Et donc, en fait, tu te démènes énormément, et c'est difficile de demander aux autres d'avoir le même niveau d'implication, le même niveau d'énergie, et de mettre le même niveau de pression, que ce soit tes banquiers, tes avocats, tes VC, tes équipes, etc. Donc, tu as une pression énorme. Moi, j'ai eu la chance de traverser ça avec Guillaume, et on a été deux, et émotionnellement et intellectuellement, pour faire de ce processus une réussite. Mais non, c'est beaucoup de pression. Et en fait, ce dont on parle pas, c'est que une fois que t'as fini le processus, et nous, on a un outcome top, on se dit, pour une boîte comme Clustry, 18,5 millions, un acteur américain, pas d'earn-out, des super jobs pour nos équipes, un produit qui va continuer de vivre, donc c'est top. Mais en fait, une fois que t'as fini le processus, tu ressens du soulagement, mais t'es épuisé. Tu ressens pas la fierté, l'enthousiasme, t'as un petit down après, très clairement. Donc, faut prendre soin de toi, et faut aussi prendre le temps de célébrer, de te rendre compte. Avec le confinement, du coup, c'est compliqué. Mais je pense que, tu vois, petit à petit, il y a des moments où, avec ta famille, tu t'en rends compte à un moment parce que, cet été, tu vas faire un voyage tous ensemble que tu n'aurais pas forcément pu faire avant. Donc,
qu'est-ce que
des
tu vas faire? Comment tu célèbres ça? Parce que c'est quand même limité avec ce qu'on nous impose, même y compris pour cet été.
Moi, le rêve de mes parents, ça a toujours été de faire le tour de Corse en catamaran. Et donc, j'ai loué un grand cata et on va partir tous ensemble avec Guillaume, les petits, mes parents, ma sœur, et on va aller faire ça. Et donc, ce sera top. Moi, ça a été aussi pour moi la vente de Clustry, quelque chose de très familial. Parce que moi, j'ai toujours monté ma boîte pour prendre soin de mes parents et de ma sœur. Et donc, moi, j'ai été extrêmement heureuse parce que j'ai pu le faire.
Et puis tu es seule fondatrice, ce qui est quand même rare, il faut le signaler.
Ouais, j'ai commencé la boîte toute seule, donc je suis seule fondatrice. Mais aujourd'hui, je me considère plus seule fondatrice parce que j'ai eu Guillaume qui ensuite est devenu aussi mon compagnon.
Guillaume, c'est ton VC au départ.
Fait, il a investi dans Clustry. J'ai eu un coup de cœur professionnel pour lui. Je me suis dit qu'on ferait un super binôme, qu'on était extrêmement complémentaire. J'ai mis énormément de temps à le convaincre de rejoindre l'aventure en tant qu'opérationnel. Et ensuite, il a rejoint l'aventure et ça a été une énorme aide pour moi parce que on a une relation très gémellaire à certains égards. On a le même niveau d'ambition, le même niveau d'énergie. On a besoin de la même intensité dans notre vie. Mais par contre, on est très complémentaires. Lui, il est beaucoup plus macro. Moi, je suis beaucoup plus micro. Enfin, et puis, il a eu 12 vies professionnelles. Donc, il a aussi vu beaucoup plus de choses que moi qui suis sur Clustry depuis 6 ans. Et donc, on a traversé ce processus ensemble. Et donc, aujourd'hui, j'estime qu'on est des cofondateurs par rapport à tout ce qu'on a vécu ces 2 dernières années. Tu vois.
Et au-delà de lui, est-ce que tu as pris conseil au moment de la session? Est-ce qu'il y a des gens vers qui tu t'es tourné pour justement avoir ces points techniques? Comment négocier? Comment bien aborder?
Oui, alors très clairement... Guillaume a été clé là-dedans parce qu'il a été banquier d'affaires avant d'être VC. Donc, si tu veux, il avait vu tout ça de plusieurs côtés, d'ailleurs. Mais oui, on s'est entouré. On a pris un banquier. On n'en avait pas nécessairement besoin dans le sens où on est, comme on vend un produit, une techno qui est très sophistiquée, c'est quand même moi qui ai fait toutes les due deals préliminaires, même qui ai pitché, qui ai fait les premiers pitchs auprès des acquéreurs potentiels. Ça aurait été plus compliqué pour le banquier de le faire. Et puis quand ils achètent une boîte de cette taille-là, ils t'achètent toi aussi, donc c'est important d'être en première ligne. Mais on a pris un banquier parce que ça envoie quand même un signal de sérieux, on est dans ce processus-là, on est accompagné, c'est sérieux. Et puis on a pris un banquier qui était positionné à San Francisco parce que beaucoup de nos acquéreurs étaient américains. Donc, c'est stratégiquement, le positionnement géographique était important. Mais surtout, ce qu'on a fait qui était assez smart sur le processus, c'est qu'on a pris les conseils d'un dinosaure du secteur, si je puis dire, d'un expert qui est Thomas Sauter, qui est l'ancien CPO de SuccessFactors et qui, en fait, connaît tout les acteurs dans la HR Tech et qui pouvait en un email nous avoir une intro et deux jours après on papotait avec la bonne personne au bon niveau de décision. Et ça, ça a été clé parce qu'en fait, dans le processus M&A, c'est est-ce que tu as très rapidement accès aux bonnes personnes et tu parles pas trois mois à parler au responsable du corp dev dont c'est le job de rencontrer plein de boîtes, de te faire rencontrer le marketing, le produit. Au final, tu sais pas s'ils sont intéressés ou pas.
Qui déclenche le bouton? Enfin, qui appuie sur le bouton?
C'est toi. C'est toi et c'est assez étrange d'ailleurs. Parce que d'abord, bon, tu as le premier déclenchement de bouton qui est « on y va » parce que c'est ce qu'il faut faire stratégiquement. On a vu qu'il y avait des intérêts. L'option rentabilité n'a pas de sens. Dans deux ans, c'est trop tard. C'est la fenêtre de tir, il faut y aller maintenant. En même temps, c'est étrange parce que quand ça fait 5 ans que tu es là-dessus, le lendemain, tu te réveilles et tu as oublié que tu as pris cette décision la veille. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu te réveilles le lendemain et tu as l'impression que c'est une journée comme les autres. En fait, non, ça va un petit peu changer. Donc, tu as ça. Ensuite, tu as rentré dans le processus. Donc, avec le board, recruter le banquier, préparer le deck parce que, derrière, il faut faire la documentation pour présenter la boîte, etc. Envoyer les premiers emails pour aller rencontrer des gens. Et soit, nous, c'est beaucoup Thomas Auteur qui les a envoyés parce que justement, il connaissait les gens. Ou Guillaume ou moi, mais quand on n'avait pas d'intro direct, on passait par le banquier. Et puis ensuite, il y a la première fois que tu en parles à l'oral à un acquéreur potentiel. Et ça, c'est...
C'est pas la même chose qu'un pitch. Hein.
Non, c'est pas la même chose. Et surtout, faut y aller. Et moi, la première fois que j'en ai parlé, je m'en souviens, on était à San Francisco, on était avec Guillaume et c'était quelqu'un de LinkedIn. Et là, tu dînes avec, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qu'on connaissait par ailleurs. Et à un moment, il faut y aller. Donc, à un moment, dans la conversation, dans le lien, tu dis, bon, allez, j'y vais. Et tu lui expliques le rationnel et tu lui dis que, évidemment, on a reçu une marque d'intérêt, ce qui était le cas. Mais là, c'est la première fois que t'en parles, toi. Et donc là, tu lui expliques le rationnel, pourquoi ça a du sens, etc. Et puis bon, après, une fois que tu l'as fait, ça y est. Et tu le refais 20 fois.
La première fois est la plus dure.
La première fois est la plus dure. Après, bon, tu parles à énormément d'acteurs. Il y a des acteurs qui viennent à toi naturellement. Et après, bon, voilà, t'es dedans et t'as switché psychologiquement. Mais la première fois, il y a un peu particulier.
Et le, tu te souviens du jour où ça a été donc signé et officiel? Est-ce que ça a été particulier, ce moment-là?
Oui, je me souviens du jour où on a signé la LOI. Parce qu'en fait, pour nous, c'est vraiment là qu'on a vendu. Parce qu'ensuite, t'as les due diligence. Et ensuite, bon, tu as ce qu'on appelle le closing du deal. Mais le moment vraiment où tu vends, même s'il y a de gros risques que ça n'aille pas au bout. C'est pas comme une LOI avec un VC où bon, tu sais que quand t'as une LOI, tu vas aller au bout parce que il y a pas vraiment de risque. Les VC vont jamais risquer leur réputation, que voilà, ils diversifient leur risque via leur portfolio, etc. Mais en effet, là, t'as beaucoup plus de risques que ça n'aille pas au bout parce que dans la due deal, il peut ressortir plein de choses. Mais nous, on avait fait en sorte qu'un maximum d'éléments soient validés, analysés par l'acquéreur avant qu'on ait une LOI, même sans qu'on ait justement cette exclusivité, parce qu'on voulait se dire que, OK, une fois qu'on a la LOI, on est à 99% sûr que ça ira au bout parce qu'ils vont juste regarder des éléments de legal. Et voilà. Mais donc, on avait partagé énormément de documents avant. Tu veux pas prendre le risque de signer une LOI et ensuite que ça capote et d'aller voir d'autres acteurs alors que, tu t'es mis en exclusivité, tu leur as pas parlé depuis un mois et demi. Et donc, ce jour-là est très important et je me souviens, c'était le 2 décembre 2019 et on l'a fait de façon digitale puisque Adam Miller, le CEO de Cornerstone, est à Santa Monica. Donc, on a reçu la LOI dans la nuit et là, ta fille. Et donc, tu vois, c'était peut-être une expérience de pré-confinement déjà. mais ouais, je m'en souviens très bien. Et ce qui est très drôle aussi, c'est que pendant tous ces moments où on négociait la LOI, en fait, c'est pour ça que cet appartement, il y a beaucoup de souvenirs. Il y avait mes parents et ma sœur ici, parce que c'était juste avant Noël. Et donc, ils étaient. Moi, j'étais au téléphone avec Adam Miller. Il m'appelait le dimanche soir. J'avais un masque au miel sur le visage. Il me dit, on peut mettre la vidéo. Non, on va plutôt le faire par téléphone, parce qu'il m'appelait de façon impromptue et spontanée. Guillaume, à chaque fois qu'il y avait les calls, lui, il allait marcher dans la rue, parce qu'il n'était pas sur le call, mais on l'avait préparé ensemble. Et lui, il y avait le stress, donc il marchait dans la rue. Et ici, j'avais mon père, ma mère et ma sœur qui étaient en train de s'engueuler comme du poisson pourri sur Noël. Et moi, j'étais au téléphone de l'autre côté à négocier une Halloween pour 18,5 millions. Donc, tu vois, c'était très familial.
Et à aucun moment donné, tu t'es dit justement rentrer dans, avec ce niveau de détail dans les négociations avant la LOI, que ça pouvait être un danger pour la techno ou que tu puisses tomber sur un acteur qui en profite pour essayer de voir, pour soulever le capot et voir un peu comment ça fonctionne à l'intérieur et en tirer des conséquences sans aller au bout?
Non, à aucun moment je me suis dit ça parce que les pré-due deal qu'on faisait avant la LOI sur la partie techno, on poussait très loin, mais on donnait rien qui pouvait leur permettre en fait de faire. Et notamment, en fait, ce qui, nous, est un énorme différenciateur, c'est la base de données de 250 millions de parcours qu'on a, sur laquelle on a entraîné les algos, et l'expertise de 6 ans de notre équipe qui a développé une IA vraiment packagée pour la RH. Et en fait, ça prend du temps. C'est 5000 jours hommes R&D. Donc, ils n'auraient pas pu recréer ça de toute façon. Et donc, au contraire, on s'est dit, l'idée, non, c'est de leur donner un maximum envie. Donc, si tu veux, quand tu calcules le risk-reward, le reward est beaucoup plus fort. Ça leur donne envie qu'ils se disent que tu as une vraie techno plutôt que le risque que tu en aies qui partent avec ça. Et puis, par ailleurs, bon, tu signes quand même des NDA avant avant la LOI pour de partager des documents et faire ce genre de meeting. Donc, on était assez à l'aise.
Et à aucun moment donné, tu t'es dit, ça va capoter, ça va pas le faire?
Il y a plein de moments où tu te dis ça.
Ouais.
Il y a clairement plein de moments où tu te dis ça. On était en vacances au Vietnam et le deuxième jour de tes vacances, tu as un des acteurs qui était les plus avancés qui t'appelle et qui te dit on s'arrête là. Donc non seulement tu dis bon, ça risque de pourrir les vacances, mais en plus tu dis est-ce que ça va aller au bout? Après, on a parlé avec beaucoup d'acteurs. Il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient intéressés, qui sont venus vers nous. Je te dis, on a eu 5 grosses marques d'intérêt et plus de 3 offres. Donc, mais tu as des moments où voilà, tu doutes parce que de toute façon, tant que c'est pas fait, tu doutes parce que tu te dis que le moindre petit caillou peut faire que ça n'aille pas au bout. Donc, tu es tout le temps en vigilance à driver ton banquier, tes avocats, tes équipes, faire en sorte que tes équipes, parce qu'il y a aussi comment tu gères la confidentialité. Tu peux pas le discloser trop tôt. Et à un moment, tu as besoin d'impliquer tes key people, ton head of data, ton head of product. Il faut que ce soit un moment où c'est motivant pour eux. Et tu veux aussi leur dire les choses en toute transparence. Et tu as besoin qu'ils soient extrêmement performants. Donc oui, c'est énormément de pression parce qu'il y a plein de choses qui peuvent faire capoter le deal. Et c'est pour ça que nous, on a levé dès le départ avec les acteurs les sujets qui pouvaient être délicats. Comme ça, tu sais aussi tout de suite si c'est un sujet ou si c'est pas un sujet, et du coup, tu avances. Bah, en fait, t'as plein de sujets sur la base de données, en fait. La base de données, les biais qu'il peut y avoir, t'as plein de sujets sur le dataset. T'as plein de sujets aussi potentiellement. D'ailleurs, c'est pas les mêmes pour tous les acteurs. Donc, t'essaies de comprendre un peu quels peuvent être les sujets bloquants pour les différents acteurs. Mais donc, oui, t'essaies de montrer. Tu montres tout, en fait. Nous, on a tout montré sur la partie legal, sur la partie contrat client. Tu vois, on avait des contrats clients où si jamais on était acheté, le client pouvait sortir. Il faut que t'évoques tout.
D'accord. Et à ce moment, donc c'est un process qui dure quand même un petit moment entre le moment où tu décides d'aller là-dedans où ça se concrétise. J'imagine que toi, t'es concentré uniquement là-dessus. Donc, t'as moins de temps pour voir après, aussi bien pour la boîte que pour toi personnellement. Donc, maintenant que ce process est passé, est-ce que tu commences à envisager la suite? J'imagine que pour l'instant, t'es à la tête toujours de Clustry, entre guillemets, la division Clustry. Mais ça va pas être éternel. Donc, est-ce que tu as déjà des envies ou déjà réfléchi un peu ce que tu veux faire?
C'est vrai que c'est délicat pendant le processus de penser à ça. Pour autant, c'est nécessaire parce que quand même, par moment, ça te permet, tu vois, d'avoir une bulle d'oxygène, de mettre un peu sur pause et de te dire, tout ce processus va permettre de réaliser ton rêve, que ta boîte ait du sens, de faire en sorte que tes équipes aient un super job, mettre ta famille à l'abri, etc., etc. Mais aussi de permettre peut-être ensuite de faire des choses différentes. Donc, c'est important de se projeter. En effet, ça a été délicat de le faire même après, parce qu'avec le confinement, c'est pas la meilleure période pour, tu vois, te dire sur quel projet je pourrais évoluer, qu'est-ce qui me fait vibrer, etc. Notamment parce que, bon, c'est pas la période où, en effet, tout le monde a le plus d'enthousiasme, mais aussi parce que tu sais pas vraiment ce qui va se passer sur le marché demain, comment va évoluer le milieu de l'entrepreneuriat, des VC, quels sont les secteurs qui vont être impactés fondamentalement, etc. Mais bon, aujourd'hui, en effet, mon rôle déjà, c'est de travailler sur l'intégration de Clustery au sein de Cornerstone, faire en sorte que les équipes soient intégrées, le produit soit intégré, que toute l'IA soit complètement déployée sur l'ensemble des modules de Cornerstone. Oui, évidemment, tu penses à l'après qui peut arriver à moyen terme ou à long terme, mais tu y penses. Et j'ai plein d'idées, il y a plein de choses. J'aimerais aller vers des choses qui ont plus de sens. C'est-à-dire que ce qu'on a fait avec Clustery, c'est top, ça aide vraiment des gens à ne pas être enfermés dans une approche sur les postes, etc. Mais je suis consciente qu'il y a énormément de problèmes beaucoup plus fondamentaux qui m'attirent sur... l'éducation, il y a plein de choses qui se font au moment où, les valeurs qu'on transmet à nos enfants, est-ce que on leur enseigne la créativité quand ils sont tout petits ou est-ce qu'on leur enseigne au contraire à être conforme à ce qu'on attend? Enfin, il y a ça, il y a les animaux qui est un sujet pour moi qui compte énormément, la planète. Et donc, et après, ça, c'est les sujets qui me plaisent. Et après, il y a comment tu le fais. Est-ce que tu le fais en étant business angel, en étant investisseur? Est-ce que tu le fais en montant ta boîte? Est-ce que tu le fais en montant plein de boîtes et ensuite en recrutant des CEO pour le faire? Donc, il y a plein de choses qui trotte dans ma tête.
Et pareil, est-ce que tu as cherché à avoir des, si ce n'est des conseils, en tout cas des partages d'expérience avec certaines personnes qui ont vécu ça et qui ont rebondi derrière?
Clairement. D'ailleurs, je l'ai fait et on l'a fait avec Guillaume avant même de vendre notre boîte. On a un de nos amis qui avait vendu sa boîte et qui nous a expliqué, justement, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, que lui, le deal a failli capoter parce que il y avait un sujet technique qu'il n'avait pas réglé. Les gens s'en sont rendus compte pendant la due deal et du coup, il a dû mettre pendant 3 semaines ses équipes à travailler pour résoudre le problème parce que c'était une condition suspensive. Donc, c'était un énorme sujet. Donc, justement, c'est ce genre de conseil qu'on a eu qui nous a fait dire « Ok, nous, on montre tout, on montre tous les sujets dès le départ pour se mettre à minimum de risque sur l'étape post-LOI. » Et lui nous a dit aussi justement que après la vente, il a eu... Enfin, c'est pas du tout l'euphorie. Et moi, quand il me parlait ça, je me suis dit « Mais pas du tout. Attends, t'as vendu ta boîte, tu sors du processus M&A, tu récupères un peu de sous au passage, tu peux faire plein de choses. Mais non, c'est la fête. » En fait, non, il avait complètement raison. C'est que t'as une zone de décompression, quoi. C'est normal, tellement de pendant quelques mois, tellement de pression, tellement d'enjeux que après, tu faut un peu te reposer.
Mais parce que vous êtes pas si nombreux que ça encore en France à avoir bien vendu votre boîte dans la tech, j'entends. Donc il y a personne avec qui t'échanges sur le sujet aujourd'hui, parce que j'en connais quelques-uns. Il y en a quelques, enfin la plupart des invités de Takeoff sont des gens qui ont vendu leur boîte. Et je me dis qu'il y a, à chaque fois, il y a le même pattern que tu décris. C'est-à-dire après la boîte, il y a vraiment un trou d'air et il faut se réinventer. Et souvent, vous êtes jeune lors de la vente de cette première boîte. Donc, est-ce qu'il n'y a pas besoin de partager, d'aller chercher un peu de matière où tu peux te réinventer?
Si, clairement. Et nous, là, c'est ce qu'on veut faire. On veut rencontrer plein de gens. Le confinement n'a pas aidé. En plus, on a envie de le faire en live, mais plein de gens qui ont justement vendu leur boîte et après, comment ils sont organisés, qu'est-ce qu'ils ont fait, et même les projets qu'ils ont lancés, comment est-ce que l'idée du projet vient, et ne serait-ce déjà des gens qui sont allés vers des projets qui nous intéressent, mais aussi pour en effet voir comment ils ont vécu les choses. Et ça, on a plein de gens qu'on connaît qui ont traversé ça, d'autres aussi qui ont eu ce processus et qui ont pas vendu au final, mais qui ont aussi réussi à se réinventer. Et donc oui, ça c'est quelque chose qu'on a envie de faire depuis un certain temps et qu'on a commencé à lancer. Donc là, on se fait des déjeuners, des apéros avec... Et c'est bien aussi parce que c'est des gens qui sont déjà passés à l'étape d'après, donc ils sont pleins d'énergie, etc. Et c'est top aussi. Mais oui.
Et sur cette aventure, donc 6 ans, hein, parce que tu as démarré en 2014, est-ce que tu as quand même des regrets ou sur des choses que... tu as fait ou que tu aurais aimé faire différemment?
Ah bah oui, il y a plein de choses qu'on aurait pu mieux faire, très clairement. Très, très clairement. Déjà, c'est pas un regret parce que j'aurais pas pu le faire autrement, mais le fait d'avoir été seule fondatrice fait que j'ai dû lever des fonds très tôt. Et donc avec beaucoup de dilution sur la première levée, notamment parce que c'était il y a 6 ans, donc c'est pas non plus les levées de fonds telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et donc ça veut dire une trajectoire capitalistique qui était particulière. Je pense qu'on aurait pu en tout on a levé à peu près 8 millions en 3 tours, 600, 2,5 et 5. Je pense qu'on aurait pu le faire en levant moins d'argent si j'avais eu un cofondateur tech au départ, c'est clair. Mais bon, moi je débarquais du sud de la France, je connaissais rien à l'entrepreneuriat, je savais même pas ce que c'était qu'un VC. des gens techniques. Moi, j'en avais vu qu'un et c'était quelqu'un qui avait fait Sciences Po, donc c'est loin des gens de la tech qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, si tu veux, quand je suis arrivée avec cette idée et que je me suis dit, il y a un truc à faire, que j'ai fait un PowerPoint, que j'ai vendu à un client sur Mockup et que j'ai pu lever, je me suis dit, c'est l'Amérique. Et aujourd'hui, évidemment, je ferais très différemment. Mais à l'époque, je pense que j'ai déjà eu énormément de chance qu'un fonds comme Alven me fasse confiance alors que j'avais rien et que j'étais toute seule et que j'étais primo-entrepreneur. Mais ça, c'est sûr que c'est un sujet qui ensuite drive quand même pas mal la trajectoire de ta boîte. Donc ça, c'est une première dimension. Je pense aussi que j'aurais, bah, typiquement le sujet des partenariats, j'aurais dû l'explorer plus tôt, te dire comment est-ce qu'on arrive à distribuer le produit via des partenariats. Mais en même temps, quand j'y pense, plus tôt, le marché n'était pas mature. Donc même si j'avais lancé ça il y a 3 ans et essayé, tu vois, de faire des partenariats il y a 3 ans, en fait, les acteurs comme Cornerstone, Workday, SuccessFactors, ils n'étaient pas là-dessus il y a 3 ans. Donc si tu veux, en fait, c'est étrange parce que on a mis 6 ans à arriver à ce point-là, mais 2 ans avant, ça ne marchait pas, et 2 ans après, c'était trop tard. Et donc, je me dis probablement que tu aurais pu faire Clustry en 3-4 ans au lieu de 5-6 ans, mais en fait, si on n'avait pas commencé il y a 6 ans, on n'aurait pas eu le dataset de 250 millions de profils qui a été un énorme atout. Donc, c'est juste que ça a été une boîte longue, mais parce que c'était une techno longue à construire. Et quand tu essayes d'optimiser sur la trajectoire, tu vois, grosse maille, en fait, c'était pas vraiment possible. Mais oui, le recrutement de l'équipe, j'ai fait des tonnes d'erreurs.
Vous êtes combien aujourd'hui ?
Quand on a vendu, on était à peu près 35 personnes.
D'accord. Et tu l'as dit, tu as grandi dans le sud et tu n'as pas fait, t'as pas la trajectoire habituelle, on va dire, des start-upers, grandes écoles de commerce ou ingénieurs. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça t'est venu, pourquoi tu es arrivé à créer cette entreprise, en plus dans un domaine quand même assez très tech?
Oui.
Qu'est-ce qui t'a amené à ça?
Alors moi, j'ai pas un parcours d'entrepreneur classique, dans le sens où, bon, en effet, déjà, j'ai vécu dans le sud jusqu'à mes 20 ans.
C'est où dans le sud ?
À côté d'Aix-en-Provence. Ouais. C'est plutôt sympa. Et si tu veux, il y a encore énormément, tout est encore énormément concentré sur Paris. Donc déjà, rien que quand tu évolues en région, si je peux dire, en province, t'es pas du tout, même juste sur les études, t'es pas du tout formé à ça va être la guerre, il faut que tu fasses les meilleures études possibles, etc., etc., tu vois. On a des bonnes écoles, mais tu ne ressens pas autant de pression que ce dont tu prends conscience quand t'arrives sur Paris. Donc moi, j'ai fait l'université, j'ai fait des maths appliquées à l'éco, et puis pour ma dernière année, donc ma 5e année, je suis montée sur Paris, où je me disais, waouh, tu montes à la capitale. Je suis montée sur Paris pour faire mon master et bosser, parce que par contre, on était tout à fait conscient que si tu fais pas de tourisme, enfin certaines industries, rien dans le sud. Et donc voilà, et ensuite j'ai fait 4 ans dans le conseil, dans une toute petite boîte de moins de 30 personnes, à être un peu touche-à-tout, donc si tu veux, expert en rien, mais un profil assez généraliste. Et puis bon, j'étais très lassée de ça, j'avais envie de faire autre chose, très clairement, parce que c'est formateur, mais bon, quand tu te réveilles le matin, tu trouves pas beaucoup de sens à ce que tu fais. Et surtout, moi, j'ai toujours eu envie d'être indépendante, autonome, d'avoir un impact sur les choses, de pouvoir mettre de l'intensité dans ma vie, que ce soit moi qui décide du niveau d'intensité. Et donc, j'ai voulu faire autre chose. Et en fait, en réfléchissant à comment est-ce que j'allais pouvoir postuler dans des boîtes, je me suis rendu compte que mon CV était pas très attractif, parce que, université, et ensuite, petit cabinet de conseil inconnu au bataillon. Donc, je me suis dit, bon, c'est là où ça se gâte. Et en fait, de ce problème-là est venue l'idée de Clustry, parce que je me suis dit, mais c'est quand même couillon qu'en France, on soit énormément sur l'université, le job title. Regarde les compétences que tu as eues et que tu as développées au sein de ton job. Et qu'est-ce que ça pourrait te permettre de faire en regardant ce que des gens qui ont des compétences similaires ont fait. Et donc, en fait, j'ai fait les algos à la mano, enfin l'analyse statistique à la mano. Et je me suis dit, en fait, c'est un sujet à résoudre, ça. Et mon premier réflexe n'a pas été de monter ma boîte, ça a été de me dire, LinkedIn, ils passent leur temps à recruter des gens, etc. Si c'était chez eux qu'on le faisait, ça aurait énormément d'impact, parce qu'on arrêterait justement de faire du recrutement basé sur le job title. Et donc, je me rappelle, j'ai fait un deck atroce de tout ce qu'il ne faut pas faire, quoi. 300 slides avec des mock-ups de produits, 15 slides, des photos de moi avant, après, avec les cheveux hirsutes et une autre, avec les cheveux bien coiffés, un iPad pour montrer, regardez, mon produit va changer votre vie. Et je suis allée pitcher LinkedIn à leur 10 ans. Et ils m'ont dit, oui, c'est intéressant, mais la personne qui s'occupe du produit, évidemment, est aux US. Donc, j'ai pitché avec quelqu'un là-bas. Puis je me suis dit, mais en fait, monte ta boîte, quoi. Tu vas te faire recruter. Peut-être qu'ils vont tuer le projet au bout de 5 minutes et tu vas te retrouver à faire du lead generation. Et donc, c'est comme ça que c'est venu.
Et quand tu étais plus petite, tu avais des rêves de, enfin, tu t'imaginais comment dans ta vie?
Pas du tout entrepreneur, c'est un métier que je connaissais pas en fait. Et d'ailleurs, je pense qu'à l'époque, c'était pas tellement, enfin, on n'appelait pas ça comme ça. Moi, je voulais être pilote d'avion de chasse. ça a été un de mes grands rêves. Et astrophysicienne. Donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mm-hmm. Mais par contre, quand j'étais petite, j'ai toujours eu l'exemple dans ma famille de mon père qui a travaillé énormément et que je voyais comme un héros parce que il rentrait hyper tard, était toujours speed, il était associé dans une entreprise et quand j'allais là-bas, j'avais l'impression que c'était lui qui prenait toutes les décisions et qu'il impressionnait les gens. Et donc il m'a énormément transmis le goût du travail dur et ma mère qui est très créative. Et donc en fait, je me rends compte a posteriori qu'en fait, être entrepreneur, ça a aussi été un moyen, évidemment, pour moi, de résoudre un problème que j'avais, que je pensais important et que j'avais chevillé au corps. Mais ça a aussi été un moyen pour moi de créer un environnement professionnel qui me convenait, en fait. Mmh. Et qui faisait en sorte que, en effet, toutes les facettes de ma personnalité et tout ce dont j'avais besoin pour être épanouie allaient être réunies dans ce job-là qui n'en est pas un, en fait.
Et quand tu te lances, comment, justement, regardent tes parents, ton environnement, est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils craignent des choses?
Alors, mes parents, ils m'ont toujours soutenue. J'ai une adolescence compliquée comme beaucoup de gens, je pense, et en fait, ils ont toujours été là et dans la communication, donc non, ils n'ont pas du tout eu peur quand je me suis lancée. Et puis, quand je me suis lancée, et d'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui, mais j'avais pas d'enfant, je faisais prendre de risques à personne, donc si tu veux, non, il n'y a jamais eu de sensation de risque, au contraire, ils m'ont soutenue. C'est d'ailleurs auprès d'eux et d'un ami à eux qui bossait dans la RH que j'ai pitché la première fois, donc on a dans le salon de mes parents, donc on se souvient de ça aussi. Non, ils m'ont toujours énormément soutenue, et de toute façon, depuis petite, je leur disais, moi, un jour, je veux faire ce que j'appelais quand j'étais petite, des grandes choses pour prendre soin de vous. Et donc, je pense aussi qu'ils ont su que c'était le moment pour moi de me lancer et que c'est comme ça que j'allais le vivre. Donc, non, énormément de soutien de ma famille, très clairement. Mais surtout, moi, en fait, je ne me rendais pas vraiment compte de ce que je faisais. Je ne me suis pas dit, bon, tu montes ta boîte, tu fais un premier produit, ensuite tu vas le vendre à un client, tu lèves des fonds, tu fais ci. Moi, je me suis juste dit, je monte ma boîte. Et après, j'ai vu et j'ai découvert, j'ai appris en marchant, j'ai découvert que, en fait, tu pouvais lever des fonds, je ne savais pas. Donc d'abord, je suis allée sur un salon et j'ai rencontré Nicolas Dessaigne et qui m'a dit, ah, super, et il m'a donné quelques conseils, il m'a dit, mais attends, il y a ça et ça qui existe. Je suis allée parler à The Family, ils m'ont dit, mais fais du Friends and Family. C'est quoi du Friends and Family? Tu vois, et donc en fait, les choses se sont enchaînées et puis après j'ai saisi les opportunités et ensuite j'ai compris comment ça se passait et donc j'ai cherché à générer les opportunités. Mais on va dire que la première année, les choses sont quand même arrivées sur mon chemin sans que je tu vois, quasiment par hasard en fait, quoi.
Tu te souviens qu'il y a vraiment des personnes clés qui t'ont aidé? Tu mentionnais Nicolas Dessaigne ou The Family, mais est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont vraiment permis de comprendre certaines choses clés pour que tu puisses te lancer dans de bonnes conditions?
Donc Nicolas, ça a été un déclencheur parce que j'étais, à l'époque, il n'avait pas du tout la trajectoire qu'ils ont aujourd'hui parce que c'était en 2014, mais j'étais complètement fan de ce mec et j'avais été impressionnée par l'humilité qu'il avait et il était hyper accessible et il avait papoté avec moi sur le salon pendant 30 minutes alors que j'étais personne, j'avais juste une idée, tu vois, et rien du tout. Donc lui, j'avais beaucoup aimé, ça m'avait confortée dans le fait que c'était une super aventure. The Family a eu un rôle clé. J'ai pas fait partie de la communauté, les événements, etc. Mais par contre, si, parce que si tu veux, quand j'ai rencontré Oussama et qui m'a dit, mais c'est lui qui m'a dit la première fois, il faut que tu fasses un tour, il faut que tu fasses du Friends and Family. Et finalement, ça s'est transformé en un tour de 600 000 euros avec Alven. Donc, il a aussi eu un rôle clé. À ce moment-là, ça, tu vois, ça a transformé, ça me fait passer à une autre étape. Et après, Jonathan Benhamou, le CEO et founder de PeopleDoc, parce que quand Alven a investi, pour savoir s'ils investissaient ou pas, ils ont demandé à John de faire une espèce d'audit, de due deal, pour voir si l'idée avait du sens, s'ils croyaient dans le marché, etc. Et ensuite, John est venu à notre board. Et PeopleDoc est sur le même marché que nous. C'est quelqu'un de très commercial qui a emmené sa boîte très loin. Et donc, le rôle de John a aussi été important dans les conseils qu'il a pu nous donner.
D'accord. Et rapidement, tu as été... T'as été l'une des figures de la French Tech. Y compris aux Échos, on t'interviewait parce que jeune femme entrepreneur, il y en avait assez peu. Et du coup, tu te retrouves dans les médias avec beaucoup d'exposition. Et puis après, quasiment plus, jusqu'à il y a 2-3 ans, ou en tout cas, ça l'était beaucoup moins. Comment tu as vécu cette période d'exposition médiatique très forte? Est-ce que tu regrettes ou est-ce que tu es... Qu'est-ce que ça t'a apporté?
Alors, si tu veux, déjà, moi, je suis plutôt sauvage de tempérament. Je ne vais pas tellement à tous les événements qui peuvent être organisés, etc. Et d'ailleurs, Rafi, mon investisseur, Shalom, me dit « Mais non, il faut que tu ailles me pousser. » Je suis plutôt sauvage. Et donc, si tu veux, cette exposition médiatique, ce n'est pas du tout quelque chose que je recherchais dans lequel je trouvais du plaisir, même si beaucoup de gens me disaient mais si, on a l'impression parce que t'es à l'aise, etc., et que t'es une bonne porte-parole de ta boîte. Mais en effet, bon, je suis à l'aise avec le sujet de communication en général, mais en fait je l'ai fait parce que il fallait le faire. Déjà, j'ai eu l'opportunité, comme tu l'as dit, parce que je suis une femme entrepreneur, il y en a assez peu, et donc on est très visible, et donc on a cette opportunité là mais en plus, moi, ma boîte était sur un secteur où la marque est très importante. C'est-à-dire que quand tu t'adresses à des grands groupes qui travaillent avec des startups, la marque que tu réussis à construire a un impact sur le niveau de confiance qu'ils ont dans ta boîte. Au-delà, évidemment, de est-ce que financièrement tu es viable, etc. Mais donc j'ai mis et puis surtout il fallait évangéliser ce marché. C'est-à-dire que on est quand même arrivé sur un marché de la commodité, parce que les RH c'est un marché de commodité. Hein. Au départ ils achètent de la paye, et nous on arrivait avec, on va résoudre le sujet des job titles et des compétences avec l'IA. Donc t'as quand même un peu de boulot pour emmener ce marché quelque part. Et donc moi j'ai beaucoup cru dès le début au fait d'évangéliser, en faisant porter le message des compétences, la mobilité de l'IA très, 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 très fortement sur le marché. Donc, et pour avoir le niveau de confiance côté marque, clustery plutôt qu'un autre, et pour que le sujet prenne dans les boîtes et chez nos clients. Donc, ça a été une nécessité, en fait, pour nous. C'est pas forcément quelque chose que j'ai fait parce que c'était un immense plaisir, même si, bon, c'est toujours chouette, mais au contraire, parce que c'était une nécessité. Et ensuite, voilà comment je l'ai vécu. Dès que j'ai eu l'occasion de pouvoir faire parler d'autres gens, d'envoyer d'autres personnes de l'équipe à des conférences, je l'ai fait parce que déjà, il faut mettre en valeur toutes les personnes de ton équipe et surtout les personnes qui sont expertes dans leur domaine, mais aussi parce que c'était agréable pour moi de voir d'autres personnes prendre la parole. Et ensuite, on a eu moins d'expositions, en effet, parce que ça correspond à peu près à la période où je me suis énormément concentrée sur les partenariats, en fait. Et quand tu te concentres sur les partenariats, t'as moins de temps aussi pour faire le reste. Et aussi, cette évangélisation était faite, c'est-à-dire qu'on a vu apparaître des concurrents à ce moment-là sur le marché. On a vu apparaître des appels d'offres des clients sur le marché. Donc, si tu veux, on avait fait notre job de l'évangélisation. Donc, on a pu un peu lever le pied en disant, OK, maintenant que c'est évangélisé, on va travailler sur les partenariats, on va travailler sur d'autres choses. Donc, c'est simplement ça.
D'accord. Et tu mentionnais quelques personnes que tu as envoyées, mais je me souviens que tu étais aussi l'une des premières à avoir recruté un vrai senior, et ce qui est plutôt rare dans ce métier. Moi, j'ai quelques conversations parfois avec certains start-upers, y compris dans Takeoff, qui me parlent de senior à partir de 35 ans, donc ce qui, moi, personnellement, fait très mal.
Moi, bientôt aussi.
mais juste sur ce point-là, ce qui me paraît important, mais qu'est-ce qui t'a attiré vers ce type de recrutement et qu'est-ce que ça t'a apporté par rapport à d'autres profils plus jeunes?
Alors, ce qui t'attire vers ce type de recrutement, c'est la sagesse, probablement. C'est que cette personne-là avait grenouillé dans le milieu de la RH depuis des années. Et donc, tu te dis que c'est quelqu'un qui va avoir du réseau dans ce milieu-là et que c'est quelqu'un qui va pouvoir... Nous, c'était pour la partie client. Il devait prendre le rôle de gérer l'équipe client. Donc, c'est quelqu'un qui savait interagir avec tes clients. Nous, une autre particularité du fait de travailler avec des entreprises de grande taille, c'est qu'elles attendent de toi le même niveau de service que des autres prestataires avec lesquels elles travaillent, qui sont des grosses boîtes, tu vois, des IBM, etc. Donc, recruter, au-delà de recruter des seniors, je dirais que recruter des gens qui sont experts et qui sont solides. Et donc, par exemple, on a recruté un Chief Customer Officer qui avait la cinquantaine. C'est pas la personne que tu mentionnes, mais c'est quelqu'un d'autre qui avait la cinquantaine et qui, pareil, avait fait toute sa carrière dans les RH. Donc, attirer ce genre de profil quand tu es une startup qui travaille avec des grands comptes, ça a énormément de valeur. Et on a eu plusieurs profils comme ça. Et même notre Head of Product, on allait chercher chez BlaBlaCar. C'est pas un senior, il avait 35 ans, mais tu dois chercher des profils avec un niveau d'expérience et d'expertise qui va rassurer tes clients. Au-delà de, évidemment, mais toutes les startups cherchent des gens qui sont performants, qui sont smart, qui ont de l'ambition. Mais nous, il y a aussi l'image que tu renvoies. Mmh. Et donc, si tu peux en plus avoir quelqu'un qui vient du secteur ou qui a déjà roulé sa bosse, ça a encore plus de valeur pour le client. Et au final, ça a eu de la valeur aussi dans notre processus M&A, très clairement. On n'avait pas fait ça pour ça. Mmh. Recruter une équipe très experte et très senior en termes d'âge par rapport à ce que tu vois en moyenne dans les startups. Mais au final, ça a eu de la valeur. Parce que c'est le type de profil qu'il y a chez nos acquéreurs aussi. Mmh.
Et quand je reviens sur ce qu'on évoquait avant, mais le fait d'être une femme, donc seule entrepreneur, quand tu parles à des grands comptes, souvent on parle de la relation grand compte startup comme étant parfois très difficile. Est-ce que maintenant tu peux peut-être le raconter, maintenant que l'acquisition s'est faite, est-ce qu'il y a eu des comportements dysfonctionnels entre voilà, le grand groupe startup? Souvent on dit qu'il y a de la pression, qu'il y a trop de POC, que c'est pas vraiment pris au sérieux. Est-ce que parfois tu t'es senti pas prise au sérieux par ces
groupes? Ah, bah bien sûr, clairement. Déjà, tu as des fois où tu arrives et c'est important pour toi de faire un meeting avec un client et tu vois qu'il y a 20 personnes autour de la table, donc tu penses que c'est important. Mais en fait, non, tu divertis. C'est-à-dire qu'ils ont invité tout le monde pour. C'est pas comme s'ils faisaient une learning expedition, mais quasiment. Donc tu te retrouves avec des gens du marketing, du produit, de la RH pour. Et toi, tu pitches et au final, bon, c'est simplement, bah, regardez, on a vu une startup, il y a une proposition de valeur innovante, c'est chouette, etc. Ça, on a très vite compris. Donc ensuite, on cadrait les meetings en disant, qui est là, et en faisant en sorte qu'au contraire, il n'y ait qu'une petite population de décisionnaires. Mais ça, c'est un sujet. Les relations contractuelles sont aussi très compliquées. Quand tu dois négocier un contrat avec un grand groupe, il a l'impression qu'il te fait un cadeau. Mmh. Donc en fait, il a l'impression que, bah, en fait, il faut que tu acceptes tout parce que c'est déjà génial qu'il travaille avec toi. Mmh. Or, non, toi, tu es un entrepreneur et tu dois travailler sur la viabilité de ton entreprise, sur en fait, son business model, etc. Il y a plein de choses sur lesquelles tu ne lâches pas. Donc, je pense que j'ai été vue par les groupes qui ont contractualisé avec nous comme quelqu'un d'assez dur dans la négociation. Mais j'ai toujours expliqué que c'était au contraire, pour protéger mon entreprise et que je ne faisais que jouer mon rôle. Mais oui, tu as des clients qui te demandent de déplafonner la responsabilité. C'est pas possible. Sinon, ta boîte, elle meurt si jamais il y a un sujet. Qui te demandent, ou alors de faire un discount sur le prix hallucinant, ou alors de faire un POC gratuit pendant un an. Donc, voilà, t'as quand même énormément cette relation de domination encore, et où ils ont l'impression que le pouvoir est chez eux. Et en fait, t'as envie de leur dire que, enfin, non, toi aussi, tu leur rends service en leur laissant accès à ta solution. Donc, il faut que ce soit un win-win. Donc, t'as pas mal de discussions contractuelles qui sont assez tendues. Et moi, j'ai toujours pris le parti d'être assez dur et de ne pas lâcher. Et je me souviens très bien qu'il y a une discussion avec un des clients où, il voulait faire un avenant au contrat. Et au final, bon, ça m'a valu une assez mauvaise réputation dans ce groupe ensuite parce que j'ai pas lâché. Mais je me rends compte aujourd'hui que.
Et t'as travaillé avec lui?
On travaillait déjà avec eux, en D'accord. fait. C'est ça aussi parfois le sujet, c'est que parfois c'est déjà ton client. Ce qui est bien fait, par contre, c'est que tu négocies avec les acheteurs ou le juridique et pas avec les opérationnels qui ont accès à ta solution. Et donc, bon, voilà, c'est aussi compris par les opérationnels qu'il y a le business et puis après, il y a la relation avec eux.
Et tu t'es bien entouré sur l'aspect legal, justement, l'aspect juridique?
Nous, on n'avait pas de juriste en interne, mais on a en effet pris une avocate qui nous a accompagnés sur tous nos contrats, qui du coup connaissait très bien la boîte puisque, bon, elle voyait les mêmes situations se répéter et qui a été très bien et qui correspondait bien aussi à l'ADN de Clostry et à ce qu'on devait défendre. Donc on s'est pas mal entouré. Après, quand t'as une boîte, t'as aussi 150 avocats différents, en fait, parce que comme il y a à chaque fois des expertises différentes, donc t'as aussi un avocat sur la dimension dataset, t'as un avocat sur la dimension sujet humain, et bon, après, évidemment, fundraising. Donc, mais sur cette partie là oui, on était très entouré depuis le départ.
Et aujourd'hui, quelle que soit la prochaine trajectoire, enfin le prochain projet que tu choisiras, est-ce que tu sais déjà quels sont les points clés sur lesquels il faut absolument que tu sois très rapidement opérationnel et que tu t'entoures rapidement des très bonnes personnes?
Bah oui, l'équipe déjà, dans un premier temps. Ouais. Je pense l'assessment du marché. C'est quelque chose que je ferais dès le départ. C'est-à-dire qu'en fait, dès le départ, moi, quasiment, si je devais remonter une boîte, ce serait pas voir si j'arrive à lever des fonds, ce serait quasiment tester les acquéreurs potentiels avec ton idée, pour voir en fait quels sont les exits. Parce qu'à la fin, tu as quand même quelqu'un qui fait un chèque et qui dit « Ok, je vous fais un chèque de 18,5 millions. » Et on parle souvent de « Oh, bon, bah, au pire, cette boîte-là, tu as des gens dans les banques qui disent « Oh, au pire, c'est une boîte qu'on pourra vendre 20 ou 30 millions. » Comme si c'était facile. En fait, non, c'est extrêmement sophistiqué en processus M&A, même sur 20 ou 30 millions. Donc, je pense que dès le départ, la meilleure façon de tester le marché, ce serait pour moi d'aller voir des compétiteurs / acquéreurs potentiels, même si ça peut être risqué de le faire. Donc, il faut voir comment tu le fais, mais pour vraiment tester quel est le marché en termes d'exit, quel est le consentement à payer, est-ce qu'il y a un intérêt fort pour ce type de produit, ce type de techno, etc. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant de tester dès le début. Et ensuite, oui, clairement, c'est l'équipe. Mais aujourd'hui, J'ai l'avantage, c'est que j'ai recruté des tonnes de gens, parce qu'on a recruté plein de monde. Il y a des gens qu'on a fait partir ou qui sont partis, et on a vu plein de candidats. Et donc, je sais aujourd'hui beaucoup mieux les personnes avec lesquelles j'aime travailler, avec lesquelles il est facile de travailler, et le type de profil qui délivre, qui a l'énergie qu'il faut, etc. Il faut des gens avec lesquels t'es aligné sur l'ambition, sur l'intensité. Et donc, aujourd'hui, ça, c'est quelque chose que je ferais, en effet, très différemment et dès le début. Donc, ouais, le marché et l'équipe.
Est-ce que tu regardes certains entrepreneurs? Tu parlais tout à l'heure d'astronomie, oui. D'astrologie,
d'astrophysique,
ouais. On va y arriver. Et parmi les entrepreneurs, évidemment, les plus cités dans le monde, il y a Elon Musk, qui veut tous nous envoyer sur Mars. Est-ce que c'est des gens que tu regardes? Est-ce que ce sont des gens qui t'inspirent? Est-ce que ça t'a envie de reboucler avec des choses avec lesquelles tu avais envie quand tu étais plus jeune?
Ah, je pense qu'aujourd'hui, c'est trop loin en termes d'expertise pour explorer ce genre de sujet. Ou alors, il faut énormément de moyens et c'est un plaisir que tu te fais une fois que tu as résolu déjà pas mal de sujets sur lesquels tu es plus à l'aise. Mais c'est pas le genre de personne qui m'inspire. Je suis beaucoup plus inspirée par c'est pas des héros du quotidien, ce que j'allais dire, mais des gens qui nous ressemblent, tu vois, par justement quelqu'un qui là dans les entrepreneurs qu'on connaît s'apprête à rentrer en processus de M&A et qui ça demande énormément de courage parce qu'il le fait dans un contexte très particulier. Je suis inspirée par des gens qui entreprennent plusieurs fois avec à chaque fois des idées différentes, tu vois, Conto, Steven Avi, ce qu'il a réussi à créer, c'est dingue. Sa première boîte, il l'a vendue un montant très raisonnable, très rapidement, et il a tout de suite rebondi sur quelque chose de canon aujourd'hui. Donc, si tu veux, je suis inspirée par des gens qui investissent différemment et qui ont le courage de monter des fonds d'investissement avec une thèse très différente et qui n'est pas celle qui est attendue avec de la tech for good, ou qui vont expliquer à leur LPs qu'en fait, voilà, demain, évidemment, on peut aller chercher des multiples très importants sur des boîtes, mais on peut aussi avoir un modèle d'investissement qui est un petit peu différent pour avoir un impact sur le monde qui est plus intéressant. Donc, les gens qui m'inspirent sont aussi des gens qui osent penser différemment avec des choses qui ne sont pas forcément politiquement correctes et qui sont un peu en dehors de ce qu'on entend tous les jours.
Qu'est-ce qui t'agace aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses, moi, qui m'agacent dans ce milieu. Mais
Moi, ce qui m'agace, c'est que ça fait un peu Star Academy, donc Startup Academy. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que quand il y a quelques années, tout le monde rêvait d'être célèbre, chanteur ou acteur. Aujourd'hui, tout le monde rêve de monter sa boîte. Et en fait, mais je pense que c'est beaucoup en France parce que du coup, c'est très show-off, c'est très... on met en avant les énormes levées de fonds alors que... En fait, ça veut rien dire. On a vu qu'il y a plein de boîtes qui ont levé énormément de fonds et qui, au final, se vendent à un prix qui est 5 fois moins élevé que ce qu'elles ont levé. Et on met pas en avant. Et t'as plein d'entrepreneurs qui lèvent pas des fonds et qui font des boîtes canons et qui tous les jours travaillent comme des forcenés et qui créent de la valeur pour des gens. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, c'est très paillette. Et c'est très paillette sur les fonds levés ou sur la visibilité, etc. Alors que oui, t'as plein d'industries qui sont très peu visibles et qui ont du sens. Et voilà, ça fait très Star Academy dans le sens où tout le monde rêve de monter sa boîte et c'est plus est-ce qu'il y a un problème que j'ai envie de résoudre et tiens, la façon de le résoudre, c'est de monter mon entreprise, c'est je veux monter ma boîte. Et en un sens, c'est très bien parce qu'en effet, ça donne de l'autonomie à tout le monde, ça crée des jobs, ça rend les gens hyper autonomes, indépendants, ça crée plein d'idées. Mais en même temps, il faut aussi, ça manque de rationnel, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont pas y arriver. Et ensuite, quelle va être leur trajectoire? Et c'est aussi que, en fait, il faut arrêter de se mentir. Pas toutes les boîtes peuvent avoir des exits à 250 millions. Donc, comment est-ce qu'on accompagne des entrepreneurs qui ont des produits canons, des techno canons, mais qui n'ont pas le marché ou qui ne vont pas pouvoir le distribuer à faire des exits plus rapidement, à des niveaux plus raisonnables, comme ce qu'on a fait chez Clustery? Et en fait, si on avait en France déjà des boîtes qui faisaient des exits à ce niveau-là, parce qu'on était pragmatique, qu'on savait les accompagner en tant que VC, qu'on savait leur dire « Ok, là, ça fait 2-3 ans, c'est le bon moment », et d'accompagner les entrepreneurs, c'est difficile de te dire « Ok, j'y vais, je vends ma boîte ». Et en fait, tu peux avoir des gens qui disent, pour qui c'est difficile aussi, parce qu'en fait, ils le vivent pas comme un succès. Quasiment considérer que tu vas vendre ta boîte, c'est punaise, je ne vends pas à 300 millions. Mais en fait, c'est top de vendre à 20 millions ou à 30 millions, peu importe, par rapport à ce que tu as accompli et d'avoir une sortie dans l'absolu. Et je trouve que c'est dommage parce que voilà, on encourage énormément les paillettes et du coup, une certaine typologie d'entrepreneurs en France. Mmh. Alors qu'en fait, tu peux avoir une approche beaucoup plus pragmatique, rationnelle, avec une autre typologie d'entrepreneurs et qui serait extrêmement bénéfique à l'ensemble de l'environnement et du secteur, en fait.
Et en dehors de l'entrepreneuriat, est-ce qu'il y a d'autres personnalités, d'autres figures qui t'inspirent ou qui te donnent le sourire ou qui te donnent envie de faire d'autres choses.
Ça va être très classique, mais par exemple, Harari, quand tu lis ses bouquins, en fait, tu te demandes comment tu peux continuer de vivre comme tu le fais. Moi, j'adorerais un moment, si on avait un projet, avoir un board de personnes comme Harari, enfin avec Harari au board qui t'oriente sur les sujets, sur comment les résoudre, etc. Il y a une association qui m'inspire beaucoup qui s'appelle Sea Legacy, avec Paul Nicklen, qui est un photographe qui fait des photographes d'animaux marins. Et en fait, eux, tu vois, c'est des gens qui ont une énergie de dingue et qui ont consacré leur vie à sauver l'environnement marin, qui lèvent des fonds pour leur association, qui ont monté un produit tech pour mettre en connexion tous les acteurs qui peuvent aider sur ce sujet. Donc, tu vois, c'est aussi une autre typologie d'entrepreneurs et qui sont moins visibles et qui sont pas dans la tech pure. Mais voilà, c'est des gens aussi qui m'inspirent très, très clairement. Et puis ensuite, j'ai vu un TED d'une nana dont j'ai pas le nom en tête, mais qui parle de comment est-ce qu'on construit une économie plus régénérative et plus redistributive by design. Et ça aussi, enfin voilà, c'est des concepts et des idées que je trouve importants auxquels on donne pas énormément de visibilité. Et donc voilà, c'est cette typologie de personnes aujourd'hui qui m'inspire parce qu'elles sont prêtes à se battre pour des idées qui ont énormément de sens, mais qui vont prendre énormément de temps à avoir de l'impact parce que c'est une conscience collective qu'il faut changer. Et ça, c'est compliqué.
Et pour terminer, du coup, quand est-ce qu'on se revoit dans 5 ou 6 ans, on fait la même chose et tu t'imagines où?
Waouh. Donc déjà, dans 5 ou 6 ans, je serais pas loin des 40. Je m'imagine où? Écoute, je sais pas. Soit je m'imagine en start-up studio avec 5-6 idées de boîtes qui ont un impact sur ces sujets qui me tiennent à cœur avec des CEO qui déroulent. Soit c'est investir dans des entrepreneurs et des équipes qui ont justement une ambition et une vision chevillée au corps en laquelle je crois et que je peux aider par rapport au background que j'ai. Soit ça peut être aussi avoir remonté ma boîte, pas toute seule, avec Guillaume, j'espère, ou probablement. Il faut aussi que nos projets concordent. En fait, on a une relation très gémellaire et donc la question, c'est ce qu'on fait ensemble. En tout cas, je m'imagine faire quelque chose en binôme avec Guillaume, c'est clair, et probablement en ayant une petite maison au Lofoten en Norvège pour aller vivre mon côté sauvage de temps en temps quand j'en ai besoin, parce que t'es en connexion avec la nature et avec la beauté et la diversité de la planète, et ça, c'est top.
Bon, bah, rendez-vous en Norvège, alors.
Ça marche.
Merci,
avec plaisir, Guillaume.
Bonne journée.
Vous venez d'écouter Takeoff, un podcast des Échos, et c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver ce podcast disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Pour toute l'info des Échos, retrouvez-nous sur leséchos.fr.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.